Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous, à l'écoute d'RMC, il est 7h42, en Loire-Atlantique encore, en Seine-et-Marne le lendemain, ou encore dans le Val-d'Oise, le refus d'obtempérer, c'est désormais une plaie, et ça se multiplie. À chaque fois, ce sont des policiers blessés, parfois même des victimes aussi, qui se trouvent simplement sur le chemin, des morts évitées de peu. Bonjour Frédéric Loss.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire du syndicat, secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Votre dernier livre, Insécurité, stop à la défense. À la descente aux enfers, c'est aux éditions Fayard. Refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Ça veut dire que désormais, quand des gendarmes ou des policiers font signe à une voiture de s'arrêter sur le côté, eh ben, il y a une grande chance que cette voiture, au lieu de s'arrêter, accélère et fuit.
Oui, c'est le cas. Et vous l'avez dit, ça fait 75 refus d'obtempérer à 80 par jour, puisqu'il y en a 28 000. Et c'est très préoccupant. Je rappelle qu'il y a, là, nous avons 9 policiers qui ont été blessés à Nantes, en Seine-et-Marne, à Argenteuil. Cette policière qui a été traînée sur 100 mètres, c'est extrêmement grave. Il y a un an et demi à Mougins, rappelez-vous, un gendarme qui a été tué, Eric Cobin, sur un refus d'obtempérer.
Donc, aujourd'hui, quelle est la solution ?
Alors, la solution, l'arsenal pénal existe sur les refus d'obtempérer aggravés, hein, les 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Le problème, c'est que on aimerait bien connaître les peines réellement exécutées. C'est que des peines.
Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus d'inquiétude. Il faut quand même donner le chiffre. Il est hallucinant. On a parlé de cette régularité quasiment désormais de ces refus d'obtempérer. Toutes les 20 minutes en France, le chiffre est évidemment sans appel puisque c'est 11% de plus de refus d'obtempérer en 2025 par rapport à l'année précédente qui était elle-même déjà en hausse. C'est un fléau.
C'est un fléau, et puis j'allais dire la marée monte, c'est pas du populisme, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans mon livre. Je dis sur le temps long, la délinquance augmente fortement, c'est pas un sentiment d'insécurité, elle touche maintenant même les policiers en particulier, puisque les refus d'obtempérer, notamment aggravés, qui concernent les policiers, vous avez vu les 3 derniers exemples ces derniers jours, et je le dis.
Hein, celui de Loire-Atlantique, hein, donc 3 policiers qui ont été blessés entre Nantes et Saint-Nazaire, je redonne quand même ce scénario qui est fou. Il repère une voiture au comportement suspect, il constate que la plaque d'immatriculation est fausse, il demande donc au conducteur de s'arrêter, il fait l'inverse, il fuit à 160 km/h, tout feu éteint pour tenter de semer la police, et il finit par s'encastrer dans une voiture de police en prenant une route en sens inverse. C'est à ce moment-là la fin de la cavale, et il y a 3 policiers blessés, dont un grave. D'ailleurs, avez-vous des nouvelles du conducteur, du conducteur qui lui-même a été hospitalisé, mais surtout des policiers?
Ils sont toujours en soins, ils sont extrêmement traumatisés, et pour l'instant les blessures sont gérées, avant d'avoir un pronostic qui soit arrêté, on attend un peu, on aura plus de nouvelles demain probablement.
Vous avez le ministre de l'Intérieur qui fait le déplacement pour rendre visite à vos 3 collègues blessés. D'ailleurs, écoutez ce qu'il a dit lors de cette visite.
Ces faits viennent illustrer à nouveau la nécessité de pouvoir voir aboutir, comme je l'ai défendu au Parlement, la possibilité d'avoir une présomption d'usage légitime de l'arme pour les fonctionnaires de police et pour les militaires de la gendarmerie nationale quand ils sont confrontés à ce genre de périple qui se traduit au final par une tentative de meurtre.
Parce qu'au fond, c'est l'une des réponses que veut apporter le ministre de l'Intérieur. Il défend l'idée d'une présomption de légitime défense. C'est-à-dire qu'au fond, la charge de la preuve ne serait plus à apporter aux policiers, mais à la partie adverse. Est-ce que vous soutenez cette idée ?
Oui, on soutient cette idée. C'est une revendication du syndicat des commissaires de la police nationale depuis longtemps. Bien sûr, il faut que ce soit encadré, mais les faits, la montée de la violence contre les forces de l'ordre témoigne qu'il est indispensable de sécuriser les interventions et les tirs des policiers. Je rappelle que, mettons de côté les dérapages déontologiques qui sont extrêmement graves et qui sont extrêmement rares, et quand ils sont graves, pour lesquels il n'y a pas de problème, l'IGPN, la justice poursuit. Mais dans la plupart des cas, les policiers se sentent insécurisés. Or, comment sécuriser les autres quand on est soi-même insécurisé ?
Une insécurité physique, une insécurité juridique ?
Les deux. L'insécurité physique, vous le voyez, avec un nombre de policiers blessés qui est très important. On est autour de 20 000, 25 000 policiers et gendarmes blessés chaque année dans ce pays. C'est quand même hallucinant, c'est anormal. Comment voulez-vous qu'on soit crédible, excusez-moi, face aux États-Unis, face à la Russie, face à la Chine, si nous-mêmes, dans nos quartiers, on n'est pas capable, entre guillemets, d'assurer la sécurité. C'est un vrai sujet. Et en même temps, c'est pas que les policiers qui sont blessés. Parce que certains vont dire, c'est peut-être la faute des policiers. Les pompiers sont de plus en plus blessés.
On a eu
les enseignants
la semaine dernière d'un pompier qui disait parfois se retrouver dans des systèmes de guet-apens, littéralement. David nous appelle au 3216. Vous nous appelez de Côte d'Or. Vous êtes gérant d'une société. Vous vouliez réagir à ces refus d'obtempérer qui se multiplient.
Bah oui, parce que chaque fois on va. Bonjour déjà à tous.
Bonjour David.
En fait, la plupart du temps, chaque fois, c'est un sujet récurrent qui revient à la délinquance. À la délinquance sur la route, que ce soit les refus d'obtempérer. Mais on sait pertinemment que ce n'est pas les gens qui travaillent, qui vont au boulot, qui font de la route régulièrement, qui sont les délinquants de la route. Moi, j'ai 53 piges, même 54. J'en fais un petit peu de route. Et quand je vois les flics, je me pose la question directe, est-ce que j'étais sur la bonne voie, est-ce que j'ai pas fait d'excès de vitesse, je me pose des questions, et si je me fais arrêter, je m'arrête, parce que je suis un citoyen lambda, mais je suis un citoyen français, et la réglementation, j'essaye de la respecter, tant bien que mal, mais j'essaie de la respecter, et si j'ai fait une faute, je l'assume.
C'est ce que nous disait tout à l'heure l'auditeur qui était commercial, qui disait, moi je fais 70 000 bornes par an, et effectivement, quand je vois des gendarmes et quand ils me font signe de m'arrêter, je m'arrête, ça me fait pas plaisir, mais je m'arrête.
On n'a pas le choix, c'est la loi. Il faut savoir si en France on veut respecter la loi ou pas. Si on la respecte pas, on s'en va. Parce que, au bout d'un moment, on va encore, à l'heure actuelle, on nous traite de criminels. On est plus criminel en roulant à 70 km/h au lieu de 50 que des gens qui vont refaire un refus d'obtempérer parce qu'on ne les poursuit pas. Donc au bout d'un moment, faut pas se tromper de personne, quoi.
Merci David. J'entends bien. Ce que vous voulez dire, c'est que quand on n'a rien à se reprocher, effectivement, on s'arrête lorsque le policier ou le gendarme nous fait signe. Une question également. Je profite de votre présence, Frédéric Clauss, sur la question du plus de pouvoir ou non aux policiers municipaux. C'est une question qui est débattue également à l'Assemblée nationale et au Sénat dès aujourd'hui, avec l'idée de leur permettre plus de verbalisation, des fouilles, des véhicules, parce qu'on se retrouve parfois avec une sorte de double police, et certains qui ont l'habit de la police, mais qui n'en ont pas le droit. Est-ce que vous êtes favorable à davantage de pouvoir à la police municipale qui n'a pas la même formation que vous, hein ?
Alors, je suis pas défavorable, j'y suis favorable, mais de façon très limitée. Il faut regarder dans le détail quel pouvoir, mais en même temps, il faut pas que ça parte dans tous les sens. On a une explosion des effectifs de la police municipale depuis à peu près 20-30 ans, hein, 200-300% d'augmentation. Alors ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un vide sécuritaire, hein. On met pas des policiers municipaux, on recrute pas des policiers municipaux
pour
rien.
Mais ils font pas le même job ?
Alors, ils font pas le même job parce que ils sont chargés de faire respecter l'ordre public communal, la tranquillité publique, la sécurité, la salubrité. Le problème, c'est que c'est le même contribuable qui paye. On n'est pas en Espagne, en Italie, aux États-Unis, dans un État fédéral. C'est le même contribuable qui paye deux fois pour sa sécurité, pour la police nationale et pour la police municipale. Et un problème majeur que va se poser avec l'augmentation des effectifs des polices municipales, même si je le dis, que ce soit pour leur pouvoir ou leur nombre, je suis pas contre, c'est qu'il faut rationaliser tout ça. Par exemple, il faut des conventions de coordination police nationale puis police municipale qui existe mais qui soit avec un vrai pilotage opérationnel, oui. Parce qu'il y a la police du maire et il y a la police de l'État, mais il n'y a aucune coordination opérationnelle sur le terrain.
Ce que vous dites de la police nationale et de la police municipale, on a l'impression qu'on pourrait le dire d'à peu près toutes les organisations territoriales en France et de ces mille feuilles où on ne sait plus qui fait quoi et où en général ça fait doublon. Merci en tout cas.
Pas de pilotage, pas de stratégie, hélas.
Merci Frédéric Clauss d'être venu dans ce studio et merci à David pour son témoignage. Je rappelle le titre de votre livre, Frédéric Clauss, Insécurité, stop à la descente aux enfers. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de police.